Le premier thème, c'est un petit peu faire le point sur les politiques publiques, les politiques de l'État en matière d'apprentissage d'entreprise et vous montrer comment, au cours des 30 ou 40 dernières années, ça a beaucoup changé, y compris au détriment du lycée professionnel notamment. Un deuxième point, je voudrais vous parler un petit peu de qui sont les apprentis. Alors, quand on dit qui sont les apprentis, pour un sociologue, c'est qui sont socialement, dans leur histoire scolaire, dans leur histoire sociale. Troisième point, je voudrais aborder un peu plus sur insister un peu plus sur la question des filles et des garçons dans l'apprentissage, parce que il y a des différences qui sont importantes et que j'essaierai de vous montrer. Et quatrième point, j'en ai pris un cinquième, j'ai mis en option, ça dépend du temps. Quatrième point, on parlera bien sûr de ce que c'est que la vie d'apprenti. Les conditions de travail des apprentis, l'insertion des apprentis, comment on rentre dans les difficultés pour rentrer dans l'apprentissage. Voilà un petit peu le menu. Alors tout ça prendra appui sur des enquêtes que je ne vais pas détailler, hein, que j'ai faites, ou des données nationales, mais pas que des données nationales, parce qu'il y a des choses que les données nationales ne disent pas. Par exemple, sur les ruptures de contrats d'apprentissage, c'est toujours assez confus, les données qui sont produites, ou sur les conditions de travail, il n'y a rien, par exemple, ou quasiment rien sur les conditions de travail des apprentis dans les enquêtes nationales. Alors, pour commencer, je voudrais faire une petite remarque sur la façon dont l'apprentissage est perçu aujourd'hui dans le champ politique. J'ai commencé à travailler sur l'apprentissage dans les années 90, à un moment où quasiment personne ou pas grand monde s'intéressait à l'apprentissage en entreprise. Et je constate depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, que l'apprentissage en entreprise, que j'appelle souvent l'apprentissage salarié, a beaucoup gagné en légitimité dans le champ politique, mais c'est même plus une question de légitimité. On a l'impression que l'apprentissage en entreprise aurait quasiment aujourd'hui un espèce de pouvoir magique pour résoudre tous les problèmes. Dès qu'il y a un problème avec les jeunes, dès que le chômage endémique des jeunes augmente, hop, on sort comme magiquement l'apprentissage en entreprise comme étant la solution. Quelques exemples sur ces dernières années. Automne 2005, vous rappelez, c'est les révoltes dans les quartiers urbains. Il en sort, l'apprentissage à 14 ans. On se dit, puisque ces jeunes font le bazar, on va les mettre au boulot. C'est grosso modo. Ce qui était très rigolo, c'était qu'en plus, c'était Dassault. Hein, parce que moi, je suis de dossier depuis très longtemps. L'apprentissage à 14 ans, il y avait très peu de personnes qui en parlaient. Et le seul sénateur qui vendait l'apprentissage à 14 ans, c'était Dassault. Voilà. Dont on se dit qu'effectivement, lui, il avait sûrement une expérience du travail à 14 ans. Deuxième élément, printemps 2006, vous vous rappelez, juste après, une autre révolte de la jeunesse, et je dirais presque d'une autre jeunesse, hein, c'est le mouvement anti-CPE. Les lycéens et les étudiants sont dans la rue. À la fin du mouvement anti-CPE, il y a une lecture politique qui est faite par la droite qui est de dire les jeunes étaient. Les jeunes étaient, alors qu'il me semble que c'était une révolte contre l'injustice du contrat de CPE, on en fait une lecture politique en disant que c'est les jeunes qui sont inquiets de leur avenir, et donc on crée une mission dans les universités qui doit réfléchir à l'avenir de l'université, et le mandat de cette mission est clairement, entre autres, de réfléchir au développement de l'apprentissage dans les universités. Donc là encore, l'apprentissage qui apparaît comme recette miracle. 2008-2010, crise financière, nouvel essor du chômage et du chômage des jeunes. Et c'est la première fois qu'on crée, sous la Ve République, un ministère qui a le titre d'apprentissage. Alors c'est la célèbre Nadine Morano, qui n'a pas fait grand-chose sur l'apprentissage, hein, parce qu'elle s'est placée en Allemagne pour voir comment ça marchait, ce qui est quand même une idée assez vieille. Mais voilà, mais c'est la première fois qu'apparaît le titre apprentissage dans un intitulé de ministère. Hein. Donc on voit le sens de la légitimation de ce dispositif. Octobre 2011, rebelote sur la crise économique, campagne électorale, Nicolas Sarkozy propose dans le cadre de sa campagne et demande à Luc Chatel, le ministre de l'Éducation, de réfléchir à ce que toutes les années terminales de lycée professionnel, c'est-à-dire de bac pro ou de CAP, soient, donc les dernières années, soient des années qui se fassent en apprentissage. Autrement dit, ça hiérarchisait, c'était un projet qui posait l'apprentissage comme étant après et donc supérieur à la formation scolaire. Bon, le projet ne serait resté dans le projet dans la campagne de Sarkozy. Bon, il est tombé à l'eau en 2012. Mais c'est pas pour autant que la gauche, que le PS est plus est moins atteint, si je puis dire entre guillemets, de ce côté-là, puisque en octobre 2012, vous rappelez, c'est la sortie du rapport Gallois. Et que déclare le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'occasion de ce rapport, comme bilan de ce rapport Gallois? Il annonce un objectif de 500 000 apprentis pour 2017. Alors je dois vous avouer que 500 000 apprentis, quand Ayrault a dit ça, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un espèce de chiffre fétiche dans l'apprentissage. En 2003, il y avait un rapport qui s'appelait le rapport du Trail, qui est un ministre de l'artisanat, du Trail, sur l'apprentissage, qui fixait déjà un objectif de 500 000 apprentis, mais pour 2007. Borloo en 2007, 2005 fait un plan de cohésion sociale, si vous vous rappelez, plan de cohésion sociale qui fixe déjà un objectif de 500 000 pour 2009. Et donc Hérault remet ça avec un certain objectif de 500 000 pour 2017. Ce qui est très rigolo pour moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est qu'en 1993, il y a eu une loi qui s'appelait la loi Balladur, la loi quinquennale sur l'emploi, qui parlait déjà de l'apprentissage, qui avait pris des mesures sur l'apprentissage, et qui fixait déjà un objectif de 500 000, mais pour l'année 2010. On n'est toujours pas à 500 000. On peut regarder l'image d'après, si vous voulez. Je vous ai reconstitué l'évolution des effectifs apprentis depuis 1975. Bon, alors, oui, un petit problème, et que ça va jusqu'en 2011, normalement. Et vous voyez que l'évolution des effectifs apprentis, donc 200 000, on est à 430 000 à peu près, actuellement. Hein, on est parti de 200 000. Donc, c'est surtout à partir, là, c'est 93, hein, c'est la réforme Balladur dont je parlais, c'est surtout à partir des années 90 qu'on a effectivement un essor de l'apprentissage, du nombre d'apprentis qui s'opère en France. Alors cet essor se fait, on peut regarder l'image d'après, cet essor se fait différent suivant les types de diplômes. Je reviens un petit peu tout de suite là-dessus, mais là j'ai mis les titres ne paraissent pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Ça c'est les CAP et 2P, hein, donc diplômes qu'on appelle de niveau 5. Ouais. Donc en fin de compte, c'est pas eux qui se maintiennent, mais c'est pas eux qui bénéficient le plus de l'augmentation du nombre d'apprentis. Là, cette ligne-là, c'est les diplômes qu'on appelle de niveau 4, c'est-à-dire Bac Pro, BPBM, un brevet professionnel, brevet de maîtrise, hein, qui sont des diplômes assez spécifiques dans certaines branches, bâtiments, mécanique automobile et tout ça, qui eux sont en plein essor. Et le trait vert, c'est l'apprentissage que j'appelle des supérieurs. C'est-à-dire BTS, IUT, licence pro, master, etc., qui effectivement est un profil d'apprenti qui est en essor très fort ces dernières années. Donc en même temps, on a un dispositif qui se transforme, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter un petit peu, mais qui se transforme aussi dans le public, hein, qui rentre. Et j'essaierai de souligner ça parce que du coup, on a un public moins homogène qu'il y a 20 ans où on n'avait que des CAP. Quasiment que des CAP ou que des BEP jusque dans les années, au milieu des années 90. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est un petit peu, comme je vous le disais, le processus de réhabilitation politique de l'apprentissage, et essayer de vous montrer comment les pouvoirs publics, l'État surtout, en une trentaine d'années, a complètement inversé sa vision de la formation professionnelle au profit de l'apprentissage en entreprise. Alors on peut distinguer, si vous voulez, trois périodes, hein, que je vous ai résumées un petit peu ici, que je vais vous présenter très rapidement, sur ce processus justement d'inversion des politiques publiques vis-à-vis de l'apprentissage et corrélativement des formations professionnelles et techniques. Sur la première période, c'est-à-dire la période de 45-70, héritage du lendemain de la guerre 39-45, de la résistance, là, l'État défend avant tout ce qu'on a appelé, que ce que les historiens ont appelé, une mise en école des apprentissages. C'est-à-dire qu'on défend l'idée qu'un métier s'apprend à l'école. C'est là qu'on crée ce qui s'appelle à l'époque les centres d'apprentissage. Alors ça prend le mot apprentissage, mais c'est des écoles. Hein, ces centres d'apprentissage étant les ancêtres des CET, je dis ça pour les générations comme moi, et des lycées professionnels d'aujourd'hui. Hein. Et donc c'est bien l'idée qu'un métier s'apprend dans une école. Alors pourquoi on défend cette idée-là à ce moment-là ? Il y a deux éléments. D'abord il y a les éléments de la reconstruction. On a besoin de qualifications rapidement. Et à cette époque, l'Union des industries métallurgiques et minières, par exemple, défend ces écoles professionnelles. Hein. Mais la deuxième idée, qui est une idée qui est plus ancienne, mais je ne vais pas détailler toute cette historique, c'est qu'on a l'idée qu'apprendre un métier dans l'école, c'est pas seulement apprendre un métier, c'est-à-dire que la formule qui est portée par les pédagogues de l'époque, c'est former l'homme, avec un grand H majuscule, l'homme, le travailleur et le citoyen. C'est-à-dire qu'apprendre un métier, c'est pas seulement apprendre des savoir-faire, c'est ça l'idée forte, c'est aussi former un citoyen qui pense, qui réfléchit, donc un travailleur qui a des qualifications, mais aussi un citoyen qui pense et qui réfléchit à sa situation de travail. Donc on a quelque chose qui se structure, et l'État est porteur, hein, de cette idée d'apprendre les métiers à l'école, avec une structuration forte. Alors on crée les ENNA, qui sont les écoles nationales d'apprentissage, qui forment les profs, de futurs profs de l'EP, alors qui sont des lieux de réflexion pédagogique par rapport à un public qui n'est pas nécessairement qui a pas un rapport à l'école facile, des lieux pédagogiques avec la pédagogie de projet, par exemple, qui est inventée par les ENNA. Alors tout ça sera complètement dilué avec les UFM, hein, cette culture-là de la formation des lycées professionnels disparaîtront. Les diplômes sont devenus nationaux, alors surtout le CAP, hein, avant on avait des CAP départementaux, donc on voit bien qu'on structure quelque chose au niveau de l'État. Et puis on a créé en 45 qui s'appelle les CPC, alors c'est un peu compliqué, c'est les commissions paritaires consultatives, c'est-à-dire des structures au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui réunissent des représentants des branches professionnelles, des syndicats de salariés et du ministère de l'Éducation nationale. Je me mets toujours en colère quand j'entends quelqu'un dire « Oui, mais les entreprises ne sont pas du tout consultées sur la formation professionnelle et technique. » C'est faux. C'est faux. Ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'il y a une structure paritaire où les entreprises peuvent exprimer par leur fédération leurs besoins de formation technique. Ce qui s'appelle CPC. CNPC. Donc on voit qu'on a une volonté politique d'une formation professionnelle en école parce qu'on donne une mission plus forte que simplement la transmission de la qualification. Alors l'apprentissage en entreprise, lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est sur cette période-là, la période 45? Ben, il est quasiment en train de mourir, il reste toujours de l'apprentissage en entreprise. C'est un héritage de ce qui s'appelait les cours Astier, hein, les cours professionnels Astier du début du siècle, 1919, la réforme Astier. Mais dans l'esprit des penseurs de l'époque, l'apprentissage en entreprise est un peu condamné. Hein, lorsque l'historien Antoine Pro, par exemple, s'est amusé à éplucher les textes de la planification. Vous savez, on était dans une période où on planifiait, on faisait des réflexions un peu à long terme sur la planification. Et ben les apprentis en entreprise, sur le rapport, par exemple, du 5e plan d'éducation nationale, donc période 66-70, hein, il n'y a pas un mot sur l'apprentissage en entreprise. On considère au ministère, grosso modo, que c'est quelque chose qui va disparaître, c'est un reste du passé. Voilà. Alors c'est vrai que la situation à ce moment-là des apprentis en entreprise, hein, donc qui sont en entreprise, n'est pas reluisante. Il y en a un quart, donc sur la période, hein, toujours 45-70, un quart des apprentis ne suivent même pas des cours professionnels. Ils sont tout le temps en entreprise. Donc c'est vraiment l'apprentissage sur le tas. Hein. Et il n'y en a que 40% de reçus à l'examen, donc à ce moment-là c'est que le CAP. Alors que dans les lycées professionnels, on a des taux de réussite qui tournent autour de 60-65%. Pas plus, hein, parce que le CAP était difficile à obtenir. Mais on voit bien que valait mieux, si vous voulez le CAP, valait mieux aller dans une école professionnelle que de le faire en apprentissage dans une entreprise. Et dans l'esprit un peu des politiques, c'est un dispositif qui va disparaître. En 75, fin de ma première période à peu près, hein, il y a plus de 700 000 élèves dans les lycées professionnels, hein, donc apprennent un métier, et il y a 160 000 apprentis en entreprise. On voit bien que l'écart est énorme, et à ce moment-là, il y a l'idée que l'apprentissage en entreprise risque de disparaître. Comme on dit dans l'Ouest dont je suis originaire, la messe semblait dite. Eh bien non, l'histoire n'est jamais linéaire, et on rentre dans une deuxième phase que j'appelle 70-90, que j'appelle la mise en équivalence des deux dispositifs. Hein, dispositif apprentissage d'un métier à l'école, apprentissage scolarisé, je l'appelle, et apprentissage en entreprise, apprentissage salarié. Effectivement, on a une deuxième époque qui va s'articuler autour de deux lois importantes, je ne vais pas trop vous embêter, mais il y a quand même des références qu'il faut avoir un peu sur ces questions-là, qui sont la loi de 1971 et la loi de 1987. Alors la loi de 1971, c'est une loi importante sur la formation professionnelle, et notamment la formation professionnelle des adultes, mais qui a des volets importants sur l'apprentissage. Elle prévoit, il y a des dispositifs très forts sur l'apprentissage d'entreprise. Grosso modo, c'est quoi le bilan qui est fait à l'époque sur l'apprentissage en entreprise? C'est que les apprentis en entreprise sont mauvais, quoi. Ils n'ont pas le niveau. Autrement dit, on constate que l'apprentissage en entreprise, il n'y a pas assez de cours. Il faut en quelque sorte, on a des apprentis qui savent à peine lire, à peine écrire, ils ne suivent pas de cours, leur niveau de formation est vraiment trop trop faible. Donc l'idée c'est de mettre plus d'écoles dans l'apprentissage en entreprise. Donc on va obliger les centres de formation d'apprentis, c'est là que l'appellation CFA, un centre de formation d'apprentis, c'est-à-dire le temps en école en quelque sorte, hein, que passent les jeunes, c'est là qu'on va créer cette expression CFA. On va dire, bah, écoutez, on veut bien vous soutenir, l'État va dire, hein, on veut bien vous soutenir financièrement, l'apprentissage en entreprise, mais mettez plus d'écoles, hein, formez plus scolairement en quelque sorte vos apprentis. Et le temps de formation en CFA va devenir d'une part obligatoire, je vous ai dit, hein, il y en avait 40% qui ne suivaient pas de cours, tous doivent suivre des cours, et on va passer le nombre de cours minimum pour le CAP de 150 heures par an à 360 heures par an. Hein, donc on rajoute, hein, du temps de formation en salle ou en atelier pour ces apprentis, pour essayer en quelque sorte d'élever leur niveau. Et puis la loi de 71 va aussi, et ça c'est important, clarifier le statut de l'apprenti. C'est là qu'elle dit, l'apprenti est un jeune travailleur. Jusque-là, c'était très confus, notamment les conflits qu'il pouvait y avoir entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, parfois se relevaient du droit privé. Hein, les textes disaient avant que le maître d'apprentissage devait se comporter en bon père de famille. Donc, ce qui renvoie pas au monde du travail, ce qui renvoie effectivement à cette idée du droit privé. 71 décide que le jeune apprenti est un jeune travailleur. Et donc il bascule, il relève du droit du travail. La seule chose, y compris le droit de se syndiquer, le droit de faire grève, etc. Hein, très peu, les apprentis sont très peu syndiqués. Hein. La seule dérogation qu'il y a, enfin une des dérogations, c'est le salaire, par contre. Hein, et c'est là qu'est effectivement décidé que l'apprenti touchera un pourcentage du SMIC, hein, donc qui varie en fonction de son âge, en fonction du diplôme qu'il prépare, et pour un CAP, je sais plus, c'est 20-25% du SMIC la première année. Mais vous voyez qu'il y a quand même un souci de clarifier, de renforcer la formation pour les apprentis en entreprise, les cours, je veux dire, et de clarifier un petit peu le statut. Alors on va aussi intervenir sur les formateurs des CFA. On va exiger des formateurs de CFA qu'ils aient les mêmes qualifications que les professeurs de lycée professionnel. Alors, c'est pas les formateurs de CFA sont sous contrat privé, hein, c'est pas des fonctionnaires. Hein, les CFA, c'est des associations privées, c'est des associations de 1901 ou c'est les municipales. Enfin, il y a plein de statuts qui existent. C'est pas la fonction publique, mais on va exiger qu'ils aient les mêmes niveaux de formation. C'est-à-dire en disant, en élevant le niveau de formation des formateurs, on va aussi pouvoir avoir une meilleure formation faite en direction des apprentis. Donc, on voit bien que le modèle, mine de rien, hein, le modèle avec la mise en place de CFA pour les apprentis en entreprise, ben c'est un peu le modèle du lycée professionnel. On veut des profs qui ont un peu le même type de formation, on veut qu'ils fassent plus de temps à l'école, etc. Et en même temps, je le redis, on clarifie le statut de l'apprenti. On peut dire qu'en 71, on passe d'un apprentissage sur le tas à un apprentissage vraiment alterné. Hein, où les deux temps, en entreprise et en CFA, sont un peu plus structurés. Alors, pour autant, hein, si on ne va pas revenir au graphique d'avant, mais si on peut revenir, vite fait. Pas celui d'avant, celui d'avant. Non, si c'est trop compliqué d'en cuire, on laisse tomber. Voilà. La loi de 71, qui doit être par là, hein, a un petit effet sur les effectifs, mais qui retombe très vite. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas. On améliore le statut, mais il n'y a pas plus d'apprentis pour autant. Ce qui va faire effectivement bouger beaucoup les effectifs, c'est la deuxième loi dont je vous ai parlé, qui est importante, qui est la loi de 1987. Qui est dite la loi Séguin, du ministre Séguin des Affaires Sociales de l'époque. Parce que pourquoi l'apprentissage a été clarifié en entreprise, c'est plus clair le statut d'apprenti, les apprentis passent plus de temps dans les centres de formation d'apprentis, mais par contre, il n'y a toujours qu'un seul diplôme qu'on peut préparer, c'est le CAP, et quelques mentions complémentaires. Dans une société qui, à cette époque-là, les années 80, est en train, même depuis les années 70, d'élever le niveau de sa jeunesse. Je rappelle que c'est en 85 que Chevènement lance le fameux slogan 80% au bac. On veut une jeunesse bachelière. Et l'apprentissage en entreprise se trouve enfermé en quelque sorte dans son seul diplôme, qui est un diplôme important, mais qui est un diplôme qui est en train de perdre de poids, puisqu'on a créé le BEP en 66, on crée le bac pro en 85, et on voit bien qu'il se retrouve enfermé en quelque sorte dans son CAP. La réforme de Séguin de 87 fait éclater ça, puisque c'est elle qui dit qu'on pourra désormais préparer tous les diplômes professionnels et techniques par la voie de l'apprentissage. Et c'est pour ça que je parle d'une mise en équivalence des deux dispositifs. Premier temps, 71, on clarifie ce que c'est que l'apprentissage en entreprise. Et la loi de 71 dit clairement que l'apprentissage en entreprise est une voie de formation aussi légitime que la voie scolaire. Je le dis dans son texte. Et 87, on élargit l'éventail des diplômes qu'on peut préparer en apprentissage. Donc à partir de 87, on peut préparer le bac pro, le BPBM, qui était avant en formation continue, un brevet professionnel. On peut préparer des BTS, des IUT, enfin bref... ingénieur, ça viendra un peu plus tard, ce sera Cresson qui fera ça, mais on peut préparer tous les diplômes de l'enseignement professionnel. Et corrélativement, on peut faire se succéder leur contrat d'apprentissage. Donc on insuffle un petit peu l'idée qu'on peut voilà, commencer en CAP et finir ingénieur, mais on verra que c'est pas si clair que ça. Alors l'histoire, là encore, aurait pu s'arrêter là, hein, mais en équivalence, un petit peu ce qu'on a fait pour le privé, hein, ce que je raconte là, privé public, hein, mise en équivalence des dispositifs. Eh bien non. On a une troisième période qui commence dans les années 90, alors, qui pour moi dure encore, hein, donc je ne sais pas quand la faire finir, où il y a très clairement le point de vue de l'État, mais aussi des régions, hein, dont je rappelle que la grande majorité est tenue par le PS, une des politiques explicites de soutien à l'apprentissage d'entreprise qui très souvent se font au détriment notamment du lycée professionnel. À part le passage Mélenchon ministre de la formation professionnelle, on peut dire qu'il y a une espèce de silence politique sur le lycée professionnel. Plus de projets politiques qui sont formulés sur le lycée professionnel. Pourquoi ? Parce que les projets politiques, que ce soit à droite ou au PS, sont effectivement centrés essentiellement sur l'apprentissage salarié qu'on veut développer. Alors comment on le fait, hein, primat de l'apprentissage salarié ? Eh bien, il y a tout un ensemble de stratégies développées par les gouvernements pour essayer de développer, c'est mes fameux objectifs de 500 000, développer l'apprentissage dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on va déréguler le marché de l'apprentissage. Alors ce que j'appelle le marché de l'apprentissage, c'est, vous savez, les apprentis, il faut qu'ils trouvent une entreprise. la majorité, en CAP, BEP, Bac Pro, tout ça, il faut qu'ils trouvent une entreprise pour, qui accepte de les embaucher. Donc c'est un peu comme le marché du travail. Alors, pour essayer de développer l'apprentissage, on va déréguler le marché de l'apprentissage. C'est notamment la fameuse loi Balladur de 93, dont je vous ai déjà parlé, qui va supprimer, alors c'est un peu technique, mais c'est important, qui va supprimer, comment dire, ce qu'on appelait avant l'agrément préalable des maîtres d'apprentissage. Jusqu'en 93, et c'était 71 qui avait posé ça, justement pour réguler, pour organiser. Jusqu'en 93, pour qu'une entreprise prenne un maître d'apprentissage, un apprenti, fallait qu'il dépose un dossier au ministère du Travail, aux délégations départementales du travail, qui vérifiaient que le maître d'apprentissage avait bien soit le diplôme qu'il fallait, soit une expérience du métier, c'est pas automatiquement un diplôme, suffisante pour former un jeune, et qu'il y avait un minimum de normes de sécurité, de machines qui correspondaient dans l'entreprise pour pouvoir accueillir dans des conditions. Donc c'était un contrôle a posteriori de l'accueil du jeune. Pour déréguler et favoriser le développement d'apprentissage, en 93, on supprime cet élément là. Moi j'ai vu les directeurs de CFA me dire, on a vu revenir des entreprises dont on avait tout fait pour se débarrasser avant. Voilà, qui revenait gentiment en disant « Ah, pour prendre des apprentis hein ». Donc, dérégulation pour essayer qu'il y ait plus d'apprentis. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais juste deux exemples de cette dérégulation. Hein, en 2011 encore, il y a toujours des mesures de dérégulation. On a décidé qu'une boîte d'intérim pouvait prendre des apprentis. Donc, l'apprenti est intérimaire pendant son contrat. C'est la boîte d'intérim qui est son maître d'apprentissage. Il a un tuteur dans les entreprises où il a envoyé. Imaginez la formation. On a créé l'apprenti saisonnier, donc à deux entreprises et qui apprend deux métiers, éventuellement. Bref, donc il y a toutes sortes de mesures qui cherchent comme ça à développer l'apprentissage en termes de dérégulation. Alors la dérégulation, vous savez, ça ne marche pas toujours. Les entreprises, si elles ne veulent pas prendre d'apprentis, elles n'en prennent pas. Il y en a plein qui en prennent pas. Alors, comme la droite a vu que ça ne marchait pas suffisamment la dérégulation, toujours pour essayer d'atteindre 500 000, on contraint quand ça ne marche pas la dérégulation. Et à partir de 2007, Sarkozy, on a pris des mesures coercitives pour les grandes entreprises. C'est-à-dire, on a pris il y a obligation aujourd'hui pour les entreprises de plus de 250 salariés d'avoir au minimum 5% d'apprentis dans ces effectifs. Et c'est un des éléments qui fait se développer l'apprentissage dans le supérieur. Parce que ces grandes entreprises, souvent, c'est plus pour former des BTS ou des licences pro que des CAP qui prennent des apprentis. Mais elles ont maintenant l'obligation. Alors, pour soutenir l'apprentissage, toujours dans cette phase-là, campagne de communication, je ne développe pas, vous avez entendu, avec le fameux slogan de l'Union des industries métallurgiques unitaires, vous vous rappelez le bac mention emploi, quelques années, je ne développe pas. Incitation financière. Alors, elle commence en 77, elle date, les incitations financières, mais à partir de Balladur 93, il y a des aides financières régulières, récurrentes. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'a déclaré Hérault récemment sur les aides financières, il y a un débat actuellement, mais enfin, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, il y a des aides financières importantes aux entreprises, donc des incitations financières. J'ajouterais à ça, toujours dans cette phase-là, une politique explicite de développement de l'apprentissage public. Alors, ce que j'appelle l'apprentissage, c'est les sections d'apprentissage dans les établissements publics. On a poussé, on a incité les lycées professionnels, les lycées techniques à ouvrir des sections d'apprentissage. On a même vu, moi je pense à Nantes par exemple, il y avait un lycée professionnel du bâtiment qui en 20 ans a quasiment basculé de filière scolaire à une filière que des apprentis, quasiment que des apprentis. Et c'est notamment d'Eurobien qui a lancé cette politique en disant pour développer l'apprentissage, toujours, on va faire de l'apprentissage, mais dans les établissements publics. C'est-à-dire les lycées professionnels ouvrent des sections d'apprentissage et ferment des sections sous statut scolaire. Bon, voilà un petit peu pour vous décrire ce basculement du point de vue des politiques publiques de l'État. Et je redis, les régions, très souvent, courent derrière ça. Elles n'arrêtent pas de donner des objectifs quantitatifs, faut atteindre tant d'apprentis, tant d'apprentis. Voilà un petit peu pour le schéma général. Si vous voulez bien, je vais continuer. On va un petit peu maintenant s'arrêter sur un petit peu qui sont les apprentis, qui sont ces jeunes qui rentrent en apprentissage. Alors j'ai mis un titre un peu facile, les apprentis ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous avez vu, je vous ai montré en même temps qu'il y a eu une modification du dispositif, donc quel effet ça a un petit peu sur qui sont les apprentis. Alors, les enquêtes que j'ai faites, ou les enquêtes nationales, montrent que les apprentis, globalement, tous ensemble, je différencierais parfois, ce sont des niveaux de formation, bien sûr, mais tous ensemble, ont un certain nombre de caractéristiques assez récurrentes qu'on retrouve. Ils sont plus souvent d'origine rurale. L'apprentissage est plus développé pour des jeunes qui viennent du milieu rural. Ce sont plus souvent des jeunes qui avaient des difficultés dès le primaire. même quand on compare avec le lycée professionnel, hein, par rapport au niveau 5 et 4, c'est souvent des gamins en CAP, BEP ou même en bac pro, hein, ou en BPBM, qui ont eu des primaires un petit peu des difficultés scolaires. Chose importante aussi, ce que les enquêtes montrent clairement, ce sont des jeunes dont les parents, dont les familles, sont moins souvent ce que je vais appeler des croyants en école. C'est-à-dire que entre quand on pose des questions du type est-ce qu'il vaut mieux avoir un bon métier dans les mains plutôt qu'avoir fait des études longues, c'est des parents qui répondent, les parents des futurs apprentis hein, répondent plus souvent vaut mieux avoir un bon métier dans les mains. Hein. Je dis ça parce qu'il y a une espèce de croyance dans notre société qui laisse à penser que toutes les familles adhèrent à l'idée qu'il faut aller à l'école le plus loin possible tout le temps. C'est pas si simple que ça. Hein, en milieu populaire, il y a encore des familles qui sont persuadées qu'il vaut mieux savoir faire quelque chose avec ses mains que d'avoir un bac plus 10 et de se retrouver au chômage. Et les apprentis, les futurs apprentis, hein, effectivement, sont souvent socialisés dans des familles qui portent cette idée qu'il vaut mieux savoir faire des choses avec les mains. Et enfin, le recrutement des apprentis se fait massivement en milieu populaire. Hein. Juste un chiffre, hein, en CAP par exemple, 64% des apprentis sont des enfants d'ouvriers. Hein, et 10% seulement des enfants de cadre intermédiaire ou supérieur. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde le recrutement social des apprentis en fonction du diplôme qu'ils préparent. Et on va regarder le petit tableau que je vous ai mis après. Mince, il n'est pas là. Ah. Si, continue. C'est parce que j'avais dû faire un truc... voilà, c'est ça. Voilà. Je vous ai mis ici la proportion de pères ouvriers. Alors c'est une enquête en Pays de la Loire, hein, mais sur un échantillon représentatif, parce qu'on n'a pas nécessairement ces données-là au niveau national, en fonction du diplôme préparé. Et qu'est-ce qu'on voit ? Plus on s'élève dans l'échelle sociale, l'échelle des diplômes, préparant l'apprentissage, plus la proportion d'enfants d'ouvriers diminue. Et à l'inverse, je ne vous mets pas tous les chiffres, mais dans l'autre sens, plus on s'élève, plus la proportion d'enfants d'ouvriers, de cadre intermédiaire et supérieur, s'accroît. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apprentissage qu'on nous propose, qu'on nous présente souvent comme étant l'inverse de l'école, une alternance à l'école. Hein, le truc fonctionne de la même manière en termes de sélection sociale que l'école. Il n'y a pas de ce point de vue-là de différence avec la forme scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence autrement. C'est pas la même manière, bien sûr. Hein. Mais du point de vue de la logique de la segmentation et la ségrégation sociale, ça fonctionne exactement pareil. Il y a une élimination au fur et à mesure de l'élévation dans les niveaux de diplôme des classes populaires par le dispositif apprentissage. Alors, que dire sur les apprentis ? Je vais passer assez rapidement, on pourra y revenir dans le débat. Je dirais, c'est vrai que c'est quand même des jeunes qui n'aiment pas l'école. Mais au fur et à mesure, dans mes enquêtes, j'ai fait une enquête en Pays de la Loire, j'ai fait une enquête en 1995 sur les apprentis et une autre en 2007. Donc ça me permet de voir aussi un peu comment changent hein, les apprentis. Et si on regarde, je dirais que les apprentis n'aiment pas l'école, mais moins qu'avant. Hein, on peut regarder l'image d'après. Je vous ai mis un certain nombre de chiffres, vous voyez, sur leur, je ne vais pas rentrer en détail, sur leurs caractéristiques scolaires. On s'aperçoit que, grosso modo, leur niveau scolaire s'améliore. Il y a une hausse du niveau du recrutement des apprentis. Alors, bien sûr, il y a un effet développement d'apprentissage supérieur.
Non, mais il y a aussi le redoublement global.
Alors, oui, voilà, c'est, j'allais le dire. Il y a aussi, faut être prudent sur l'interprétation de ces chiffres. Il y a aussi le fait qu'on fait de moins en moins, redoubler. Sauf que c'est pas que ça, parce que lorsqu'on regarde en détail, hein, par exemple le recrutement social, moi ce que j'ai constaté sur mes deux cohortes, c'est que dans les années 90, on avait encore des enfants d'ouvriers en CAP-BEP par exemple, des enfants d'ouvriers non qualifiés ou de parents chômeurs qui rentraient en apprentissage. Aujourd'hui, on en a presque plus. Le taux de chômage des parents en 2007, là, y compris des parents ouvriers, et de l'ordre de 2 ou 3%, qui ne correspond pas du tout au taux de chômage national. Autrement dit, les franges les plus paupérisées du milieu populaire ont été écartées au fur et à mesure de l'apprentissage.
Et il faut aussi distinguer le fait qu'ils sont recrutés.
Alors, ça, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a un processus de sélection et on verra justement notamment les effets. Alors, bien évidemment, ces chiffres globaux sont trompeurs parce que je vous ai dit maintenant, avec les différents niveaux d'apprentissage, on ne peut plus parler globalement des apprentis. On voit bien entre mes deux cohortes l'effet du développement de l'apprentissage du supérieur. Hein, les bacheliers, on n'en avait presque pas dans les années 90. 20%, c'est-à-dire un cinquième des apprentis aujourd'hui, sont des bacheliers. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage en entreprise ne fonctionne pas comme une filière, c'est pas comme l'école. Autrement dit, moi j'ai vu des fois des chambres des métiers qui font des campagnes de communication en disant comme ça, vous commencez à CAP, vous pouvez finir ingénieur. Je hurle parce que c'est complètement faux. L'apprentissage recrute par étagement. Autrement dit, les apprentis du supérieur sont pas des jeunes qui sont passés par l'apprentissage en CAP, BEP, BAC Pro. C'est des lycéens qui ont été plutôt bons élèves au lycée technique, voire contentés quelques années en fac ou faculté, puis après qui basculent en apprentissage. Donc autrement dit, il n'y a pas de filière. Et c'est même pire qu'il n'y a pas de filière, il y a un plafond de verre au niveau du bac. Autrement dit, il y a deux marchés de l'apprentissage. Il y a un premier marché niveau 5, niveau 4, hein, c'est-à-dire CAP, BEP, BEP, BM. Là, on a effectivement des jeunes qui commencent en CAP, BEP, BEP en train de disparaître, hein, et puis qui arrivent à faire un bac pro ou un BPBM après. Voilà. Et on a un second marché d'apprentissage qui est le marché d'apprentissage du supérieur, qui lui recrute des élèves qui ont eu beaucoup moins de difficultés scolaires, qui ont côtoyé des élèves corrects au lycée, pas nécessairement excellents, mais corrects au lycée, et qui effectivement sont recrutés à la sortie du lycée ou après une année ou deux années dans l'enseignement supérieur. Hein. Et c'est vraiment deux marchés distincts, et on l'a vu tout à l'heure sur les recrutements sociaux, c'est aussi deux marchés distincts du point de vue des origines. Sociales. Alors, conséquence quand même du point de vue de l'image de l'apprentissage, toujours entre mes deux corps, l'orientation en apprentissage est de moins en moins vécue, enfin le choix d'aller en apprentissage est de moins en moins vécu par les jeunes comme une orientation par défaut forcée. Alors c'est des idées subjectives hein, qui sont dans leur tête, mais il faut tenir compte de ce que les jeunes ont dans la tête. Hein. Vous voyez, avoir choisi l'apprentissage, ils sont quasiment 80% aujourd'hui à déclarer l'avoir vraiment fait par choix. C'est surtout ce qui est le plus fort, c'est ceux qui auraient préféré continuer au lycée à l'université. Hein. On en avait encore 12% en 95, donc ceux-là c'était vraiment qu'ils avaient été contraints d'aller en apprentissage. On en a presque plus. Hein. Donc les jeunes vivent vraiment comme un choix, de vivre de plus en plus comme un choix positif. C'est intéressant de je ne sais pas si on aura le temps de discuter ça, de réfléchir aussi. Aussi là-dessus. Alors, donc il y a très nettement dans la tête d'une partie des jeunes, en tous les cas, je ne dis pas tous, hein, mais une revalorisation de cette idée d'aller en apprentissage. Hein. Par contre, ça a des effets, et notamment ça a des effets sur les difficultés à rentrer dans l'apprentissage. Quand je compare mes deux corps, je ne vais pas vous donner les chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais ils sont publiés hein, pour y accéder, c'est de plus en plus dur aujourd'hui de trouver une place d'apprentissage. C'est de plus en plus. Justement parce qu'il y a eu ce processus de revalorisation, qu'il y a les campagnes de communication et tout ça, et que les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes dans tous les cas qui se disent bah, pourquoi pas, et c'est de plus en plus dur, mais quand je compare mes deux corps, pour trouver un maître d'apprentissage. Hein. Faut de plus en plus de temps. Et ça a deux. Alors, en plus, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. On ne sait rien des jeunes qui essayent de rentrer en apprentissage et qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, c'est un espèce de chiffre noir, comme on dit en sociologie, parce que ces jeunes-là, soit ils restent à l'université, ils restent en lycée, ils restent ils sont toujours pris en charge par la mission locale, enfin voilà, mais on ne sait pas combien essayent de rentrer. Et ça a un effet, cette tension sur le marché de l'apprentissage, c'est que j'ai constaté en comparant mes deux cohortes que, autant on a de plus en plus de jeunes qui vont en apprentissage, par choix entre guillemets, subjectif, autant on en a aussi de plus en plus qui n'apprennent pas le métier qu'ils souhaitaient apprendre. Et ça, c'est intéressant. Ben oui, parce que comme il y a plus de tension, il y a des effets là-dessus. Par exemple, en CAP, ils sont 29% à déclarer ne pas apprendre le métier qu'ils souhaitaient apprendre. Donc, les questions d'orientation, par exemple, qu'on renvoie souvent à la voie scolaire, se posent aussi hein, dans ce marché libre de l'apprentissage. Hein. Il y a des effets de cliquet. En CAP, BEP notamment, voilà, on part. Parce qu'il y a des secteurs où c'est très très dur. Hein. La coiffure, moi j'ai des témoignages d'apprentis hein, qui font une centaine de séances de coiffure avant de réussir à trouver, ou aux pharmacies, hein, pour faire le préparateur de pharmacie, le BP de préparateur de pharmacie, qui font une centaine de pharmacies avant de réussir à trouver. Ça veut dire qu'il faut la disponibilité des parents, il faut des moyens de se déplacer pour. Ça veut dire parfois quand on trouve, c'est à 40-50 km, enfin, payer l'hébergement. Il y a des secteurs où c'est très compliqué. Donc il y a des effets de cliquet. On commence par la coiffure, hein, parce que chez les filles notamment, on s'appelle coiffure, etc. Voilà. Et puis on ne trouve pas, on sera pas vers la vente. Hein. Alors chez les garçons, c'est le top du top, c'est la mécanique moto. Très rare, très difficile à trouver, donc on commence mécanique moto. Mécanique auto, c'est pas facile non plus, et on finit mécanique véhicule industriel. Pas le plus valorisé, le plus durable. Alors voilà, alors si on ne trouve pas dans la mécanique, on est obligé de se rabattre sur les métiers de la bouche. C'est-à-dire restauration, ou alors ceux qui ont le plus de difficultés à recruter, boucher charcutier, par exemple, qui ont énormément de difficultés à trouver. Donc il y a des effets cliquets, donc il y a des problèmes d'orientation. Et ça joue notamment, on en parlera sur les, sur les ruptures de contrat. Alors vous l'avez signalé, en plus là-dedans, il y a un processus de sélection. Il ne faut jamais oublier, c'est pas des sélections nécessairement sévères, hein, c'est pas la sélection pour rentrer à l'ENA ou dans, je veux dire, ou dans une classe prépa, hein, mais il y a des sélections à l'entrée, puisque le marché d'apprentissage fonctionne comme ça, les jeunes doivent trouver une entreprise. Hein. Donc ils vont frapper, alors ça veut dire qu'on faut avoir des ressources sociales. Ça a des effets aussi, notamment quand on est sur les niveaux 5, même sur le bac pro, ben sur le localisme de la recherche. Hein, parce que la mobilité à 16 ans, on ne va pas partir à 300 km, puis sinon il faut que les parents puissent payer, enfin, c'est compliqué. Donc l'orientation, elle se fait, on a envie de tel métier, mais il y a aussi, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme boîte dans le coin où je pourrais aller voir. Hein, donc c'est un effet un peu compliqué. Les maîtres d'apprentissage, même les petites entreprises artisanales, hein, qui sont des grands embaucheurs d'apprentis, sélectionnent. Alors comment ils sélectionnent? Ils font des tests. Ils disent, viens donc passer 2 jours pour voir si le métier te plaît. Officiellement, c'est pour voir si le métier plaît. Hein. Mais en même temps, bah, c'est pour essayer de juger le jeune. Alors le juger dans son comportement, on peut comprendre, mais parfois aussi juger moralement. Hein. Les maîtres d'apprentissage, contrairement à ce qu'on pense, surtout chez les petits artisans commerçants, moi ça m'a toujours amusé parce que c'est des gens qui disent du mal de l'école assez facilement, ça, hein, bien volontiers, sauf que quand ils embauchent un apprenti, ils regardent de près le livret scolaire. Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Ben oui, qu'est-ce qu'ils y cherchent? Des informations sur l'absentéisme ou les retards. Parce que pour eux, un gamin qui arrive en retard ou qui est absent, il viendra pas à l'heure au boulot, on le prend pas. Et puis il y a des critères de lecture simplement par rapport au métier. Les électriciens vont regarder un petit peu le niveau en mathématiques. Parce que les schémas et les boîtes électriques, faut pas n'importe quoi, il y a des raisonnements logiques. Hein, pour le commerce et tout, on va regarder le niveau un peu en français. Hein. Donc il y a des critères scolaires aussi de sélection, en plus des tests qu'il faut faire. Alors, bien sûr, les stages en troisième institués dans les collèges servent, entre autres, de ces périodes de tests. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont faites hors cadre juridique, d'ailleurs, très souvent. Et moi, j'ai beaucoup de maîtres d'apprentissage qui m'ont dit, bah, moi, je leur demande de venir pendant les vacances de février, pas pendant les vacances de Pâques. Comme ça, je vois s'ils sont motivés. Hein. C'est un bon test. Voilà. Et là, le cadre juridique, je peux vous dire, il n'y en a pas vraiment. Voilà. Donc, il y a une sélection. Alors, dans l'apprentissage du supérieur, c'est un peu différent. Parce que là, fonctionne souvent ce qu'on appelle un apprentissage concerté. C'est l'expression qui est utilisée, parce qu'elle ne dit pas grand-chose, je ne devrais pas vous la dire. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est que dans le supérieur, très souvent, c'est le CFA qui présélectionne les apprentis. Donc, mais il fait une sélection quand même, hein, qui présélectionne les apprentis et qui a un portefeuille d'entreprise et qui dit après aux jeunes apprentis qui ont été sélectionnés, bah voilà, voilà un portefeuille d'entreprise, allez convaincre telle entreprise de vous prendre. Donc il y a quand même toujours le travail de convaincre l'entreprise, mais il y a une présélection qui se fait en amont par le CFA. Mais pour tout ce qui est, c'est-à-dire 75% des apprentis, un bac pro, BP, BM et puis CAPBP, là c'est l'apprenti qui doit trouver une entreprise. Donc processus de sélection. Alors, ce processus de sélection a un effet sur la population apprentie. Et notamment, ça crée 2 biais importants. Premier biais, l'apprentissage est blanc, entre guillemets. Entre guillemets, hein, très bien. C'est-à-dire qu'il y a très nettement une sous-représentation des jeunes d'origine immigrée dans l'apprentissage en entreprise. Très nettement. Les chambres de commerce, les chambres de métier ont mis du temps à le reconnaître, mais elles le reconnaissent maintenant. Hein. Alors là aussi, c'est pas quelque chose qu'on mesure, hein, parce qu'une partie de ces jeunes sont français, donc les statistiques ne disent pas, parce que c'est des statistiques nationales. Mais des enquêtes ont été faites, et très nettement, il y a des discriminations. Alors, comment expliquer ces discriminations? Il y a 2 éléments qui jouent. Premier élément, je vous ai dit, le marché de l'apprentissage fonctionne comme le marché du travail, donc il est un peu logique, pas juste, hein, mais logique, qu'on retrouve sur le marché de l'apprentissage les discriminations qui existent sur le marché du travail vis-à-vis des jeunes d'origine d'Afrique, par exemple, du Maghreb ou d'Afrique noire. Alors les maîtres d'apprentissage, ils vous disent souvent, c'est pas moi, c'est ma clientèle qui veut pas, quoi. On se réfugie derrière, voilà. Hein. Mais objectivement, ils embauchent beaucoup moins de jeunes d'origine étrangère. Donc il y a très nettement des discriminations liées à la structuration du marché du travail. Il y a quand même une deuxième hypothèse qu'il faut faire, qui n'élimine pas la première, hein, mais qui existe sûrement. Je redis, hein, je ne sais rien de ceux qui essayent de rentrer et qui n'y arrivent pas. La deuxième hypothèse, c'est qu'il est possible que les jeunes d'origine immigrée se présentent moins au dispositif. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des enquêtes du CEREC qui montrent bien ça. Hein, le dispositif de migration, ce n'est pas une mobilité géographique, ce n'est pas seulement une mobilité géographique, il y a souvent une ambition d'une mobilité sociale pour les parents. Hein. Et en France, c'est vrai que notamment les familles migrantes du Maghreb croient beaucoup en l'école pour la réussite sociale. Hein, donc ils croient à l'école pour leurs enfants. Hein. Et l'apprentissage n'est pas souvent vécu pour eux comme une voie possible de mobilité sociale. Et ça peut en être une. Je ne sais pas que ça en est une systématiquement, mais ça peut en être une, notamment dans la mobilité sociale, non pas la mobilité sociale des diplômes, mais la mobilité sociale de la mise à son compte. Je rappelle qu'en milieu populaire, il y a deux visions de la réussite sociale. Il y a la réussite sociale par l'école, hein, on est ouvrier, on a des enfants instits, on réussit, et puis il y a la mise à son compte, hein, qui est aussi une vision qui existe et qui existe encore. Voilà. Donc il ne faut pas écarter cette deuxième hypothèse que ces jeunes-là se présentent peut-être moins dans le dispositif. Les deux sans doute. Donc premier élément déformant hein, de ces processus de sélection. Deuxième élément, proportion de filles. Il n'y a que 30% de filles dans l'apprentissage. Et il n'y a que 30% de filles depuis les années 70. Ça ne bouge quasiment pas. Hein. Sauf l'Alsace et la Moselle, mais c'est lié à des éléments historiques du temps où l'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Où là, on a 50% de filles. Alors, on a une sous-représentation des filles. Alors, moi, je le rappelle sans cesse à ceux qui passent leur temps à défendre l'apprentissage et à présenter ça comme étant le système merveilleux, en disant, si c'est si merveilleux que ça, c'est quand même pas juste que les filles en bénéficient moins que les garçons. Hein. On va peut-être réfléchir là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est surtout en niveau 5 et 4. Hein, on est sur des métiers qui sont très marqués par l'identité de sexe, hein, métiers masculins, féminins, très fortement marqués de ce point de vue-là. Ils ne sont pas masculins, féminins par essence. Par construction sociale, et l'offre de métiers féminin, entre guillemets, est beaucoup plus limitée que l'offre de métiers masculin. Hein. Malgré les initiatives publiques qu'il y a pu avoir, hein, c'est technique, c'est pour elle et tout ça, qu'on ne peut défaire, par contre, hein, ou malgré même des volontés des branches, hein, le bâtiment dans les années 2000 a fait des efforts sur les points de recrutement pour ouvrir aux filles, mais bon, ça donne un peu de choses. Donc les filles sont cantonnées dans un nombre limité de métiers et elles sont donc moins nombreuses. Même alors, ce qui tend, excusez-moi, oui.
Même au niveau supérieur.
Alors, au niveau supérieur, ça dépend. C'est moins vrai sur les BTS parce qu'on a les BTS du tertiaire qui arrivent. Mais alors, dès que vous filez vers l'apprentissage des ingénieurs, on retrouve exactement la même chose. Hein. Et globalement, le 30%, même avec le développement supérieur, n'a presque pas bougé, c'est peut-être passé à 32%, mais enfin bon, il n'y a pas de pente pour le moment très très jeune. Ce qui est important, c'est le fait que les jeunes d'origine immigrée et les filles sont moins présentes dans l'apprentissage, c'est que ces deux populations sont renvoyées vers le lycée professionnel, notamment sur les diplômes de niveau 5 et 4, qui elles sont notamment les lycées professionnels publics, qui en sont tenus d'accueillir ces jeunes-là. Et or, on sait que les jeunes d'origine immigrée ou les jeunes femmes ont aussi des insertions sur le marché du travail qui sont plus difficiles, du fait des discriminations dont j'ai parlé, ou du fait du marché du travail féminin qui est plus atteint par un taux de chômage plus élevé, par du travail à temps partiel imposé, etc. C'est pour ça que je hurle, là encore, quand je vois des comparaisons globales qui comparent l'insertion des apprentis à l'insertion des jeunes qui sortent du lycée professionnel. Il y a un problème, il y a un effet de structure. Ce n'est pas les mêmes jeunes, ce n'est pas les mêmes populations. Dans un cas, il y a une sélection, dans l'autre, il n'y a pas. Et on n'a pas les mêmes publics. Donc on peut comparer les deux voies. Hein, j'en parlerai un petit peu en termes d'insertion professionnelle. Mais il faut le faire dans des domaines précis. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a cet effet structure qui fait que le LEP accueille des populations que les CFA ne prennent pas. On a une inversion. Dans les années 70, les apprentis, l'apprentissage, c'était ceux que l'école ne voulait vraiment plus. Aujourd'hui, pour les lycées professionnels, on est quasiment dans la situation inverse, où ils accueillent, ils sont tenus d'accueillir, ceux dont l'apprentissage n'a pas voulu. Presque. Donc, ça, vous comprenez la version que j'ai décrite dans ma première partie. Alors, je voudrais rester un petit peu sur les filles et les garçons, si vous voulez, parce que j'ai creusé un peu cette question-là, et c'est... Non, vous voulez pas ? J'ai mal interprété votre. Alors, donc, j'ai vu qu'en plus il y avait un autre atelier sur le féminisme cet après-midi. Parce que c'est un sujet qui m'a bien intéressé, outre le fait qu'elles sont sous-représentées. Il y a un paradoxe très fort sur la position des filles dans l'apprentissage. On peut... Ah bon, c'est bien. Fabuleuse. Un double paradoxe. Les filles dans l'apprentissage sont sursélectionnées à l'entrée, ça c'est le premier élément, et sous-insérées à la sortie. Alors, sursélectionnées à l'entrée, je vous ai dit, elles ont moins de métiers, elles sont très nombreuses à s'y présenter. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde leur niveau scolaire lorsqu'elles sont recrutées comme apprentis, il est plus élevé que celui des garçons. D'accord ? Si je prends par exemple l'entrée en CAP, quand je regarde le niveau scolaire des filles qui rentrent en CAP à apprentissage, eh bien, elles ont plus souvent un niveau second, elles ont bien sûr beaucoup plus souvent eu le brevet des collèges, un niveau troisième général, que les garçons qui rentrent pour un CAP au même niveau. Hein? Parce qu'il y a sursélection, parce qu'elles sont plus nombreuses, il y a plus de temps sur location. Sursélection, elles mettent beaucoup plus de temps à trouver un maître d'apprentissage que les garçons. Parce que c'est plus difficile. Et je dis, elles sont sous-insérées à la sortie. Ben, bien sûr, parce que l'effet sexe des métiers font qu'elles s'insèrent sur les segments féminins du marché du travail, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était marqué par un chômage plus important, des taux travail à temps partiel beaucoup plus fréquents, et donc leur insertion est plus mauvaise que celle des garçons, plus mauvaise quand on prend les critères stabilité du marché du travail que celle des garçons. Ça, c'est le premier élément.
Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement des patrons qui ne veulent pas les embaucher comme des jeunes issus de l'immigration, parce qu'ils disent aussi que ça peut faire fuir les clients d'avoir des jeunes filles
Non, parce que quand on est sur la coiffure, c'est pas un problème. Quand on est sur la vente, c'est... Alors la vente, ça dépend de l'objet vendu, mais bien sûr, si c'est pour vendre des motos, on va mettre un garçon. Hein. Mais globalement, la vente alimentation, faut pas oublier que moi j'ai vu les supermarchés, hein, les Super U, les Intermarchés forment beaucoup par apprentissage. Donc là, il n'y a pas cette discrimination. Il peut y avoir peut-être dans certains métiers, mais globalement, il n'y en a pas. Non, c'est qu'on est dans des secteurs, la distribution alimentaire, où les temps partiels sont construits, voilà, on propose un boulot 18 heures. Ça prend, on nous a laissé, quoi, voilà. Et comme il y a derrière Pôle emploi qui fait ses menaces, ben on prend et on se retrouve à une situation de travail précaire. Ce qui est beaucoup moins fréquent pour recruter un mécanicien, par exemple, un mécanicien automobile, c'est tout de suite, c'est 35 heures, voilà. Ça joue plutôt là-dedans. Deuxième élément sur filles et garçons, les filles et les garçons ne vivent pas l'apprentissage de la même façon. Alors ça, j'ai voulu, dans mes enquêtes, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se passe entre le maître d'apprentissage et l'apprenti dans la relation d'apprentissage. C'est quand même une relation, un binôme qui est assez important, on transmet un métier. Alors il y a des bons maîtres d'apprentissage et des mauvais, c'est pas ça que je veux développer, mais c'est une relation très singulière. Je pouvais pas passer mes journées dans l'atelier à regarder, j'aurais emmerdé tout le monde, moi, vite mis dehors. Alors, au cours d'une enquête, j'ai interrogé par des questions ouvertes des apprentis, une première enquête faite avec l'INSEE, sur ce qu'ils ont aimé dans la relation avec leur maître d'apprentissage et ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais je posais les deux questions, c'est pas un truc de satisfaction, hein, satisfait, pas satisfait, c'est dites-moi ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu dans la relation avec votre maître d'apprentissage, et dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Et en question ouverte, c'est-à-dire que les apprentis répondaient par des phrases. Je me rappelle les gens de l'INSEE avec qui je faisais ça, ils m'avaient dit, Moreau, ces apprentis, ça m'a fait écrire. C'est vrai, il y a plein de fautes d'orthographe dans la réponse, sauf que quand on les interroge, ils ont plein de trucs à dire. Alors j'ai fait des analyses, je passe de données statistiques textuelles, je passe. Alors ça permet de voir, j'ai sélectionné par un, on appelle un test de Pidou, il y a peut-être quelques mathématiciens là, les réponses caractéristiques que font les garçons et les filles à ce rapport à la relation d'apprentissage. Alors on va regarder si vous voulez bien ce que disent les garçons lorsqu'ils... Ouais, je vais en lire quelques-uns. Donc c'est le rapport négatif à l'apprentissage. Qu'est-ce qui leur a pas plu? Donc c'est les réponses caractéristiques. Voilà. Alors voilà exemple, les conditions de travail, les horaires, l'insalubrité des lieux, le caractère du patron. Le salaire d'un apprenti qui fait les mêmes heures qu'un ouvrier, qui gagne trois fois moins cher, est-ce que c'est juste logique? Trop d'heures de travail, pas assez pour étudier, trop petit salaire. Parfois les heures, les horaires, le travail d'entreprise, le salaire, les horaires d'entreprise, pas trop exigeant, les horaires. Bon, j'insiste pas, vous voyez ce que ça veut dire, c'est clair. Lorsqu'ils jugent négativement la relation d'apprentissage, les garçons s'inscrivent dans la relation salariale. Ils évaluent la relation de salariale, les conditions de travail. Voilà. Regardons lorsqu'ils sont en positif. Donc toujours les garçons, mais ce qui leur a plu, ce qu'ils ont aimé. Bonne ambiance avec les ouvriers, avoir bien appris le métier de peintre, et plus. Et plus dit beaucoup de choses. L'ambiance dans le travail avec les techniciens et les ouvriers, il y a une très belle ambiance avec les ouvriers et le patron, et bien entendu, c'est le principal. Très bonne relation entre les ouvriers, le patron et les apprentis, la proximité du lieu de travail, la bonne ambiance, j'ai bien aimé les relations avec les patrons et les l'ambiance dans l'entreprise, l'ambiance. Quand ça va bien, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Bonne ambiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire une intégration dans un collectif de travail qui se passe bien, et quelque part, l'ambiance permet de transcender éventuellement les mauvaises conditions de travail. Hein? Mais quelque part, l'ambiance, c'est également une appréciation des relations, de la relation de travail, des conditions salariales. Hein? Autrement dit, la vision qu'ont des garçons de la relation de formation avec le maître d'apprentissage, c'est une vision de travailleur qui juge les relations de travail. Version négative, en fait, trop d'heures, on n'est pas bien payé. Et version positive qui transcende, il y a une bonne ambiance. Ça se passe bien, on a une bonne intégration, en quelque sorte, dans un collectif de travail. Voyons ce que disent maintenant les filles. Rapport négatif. Quand ça leur plaît pas. Elle profitait de moi, elle m'a presque pas appris les coups, aussi bien en femme qu'en homme. Ce n'est pas normal, on ne peut rien dire, sinon c'est la porte d'office. Je n'ai pas pu apprendre mon métier grâce à elle, j'ai eu une formation ratée, aucune aide pour l'examen, promesse non tenue. Je ne coupais pas, on voit le poids des coiffeuses, hein. Elle m'a pas, mais elles sont très nombreuses. Elle n'a pas confiance en moi, je ne pouvais pas progresser, le manque de motivation et par la suite le dégoût, je n'avais pas le droit de m'asseoir. Elle ne me faisait pas servir, c'est pour ça que je ne retrouve pas d'emploi. Pendant 6 mois, à peu près, je n'ai fait que du rangement. Elle n'expliquait pas toujours bien ce que je lui demandais. C'est la vendeuse de magasin qui m'a tout appris. Les employeurs ne s'occupent pas assez de nous. C'est n'importe. Ce qui les importe, c'est d'aller à l'école. C'est pas occupé de moi. C'est... Les filles, lorsqu'elles jugent négativement la relation d'apprentissage, jugent la qualité de la transmission du métier, du savoir-faire, l'accès à la qualification. Il y a des petits trucs sur les conditions de travail. On n'a pas le droit de s'asseoir, mais oui, c'est rien par rapport aux garçons. L'enjeu, c'est apprendre le métier. Alors, quand on regarde en positif, eh ben, là, c'est l'inverse. Hein. Très bon contact avec elle, un maître d'apprentissage très présent en cas de besoin d'explication, qui a su me motiver et me respecter. Très bon maître d'apprentissage, elle m'a conseillé de faire des concours dans le métier, j'ai appris énormément. Elle s'est bien occupée de ma formation, de mon insertion d'entreprise, très gentille, je m'entendais bien avec elle. Très gentille, ils m'ont beaucoup appris, voilà. Alors là, on a plus souvent le mot en tant que ambiance, mais on voit bien qu'en positif, c'est quand on leur a bien transmis le métier. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les garçons ne vivent pas la relation d'apprentissage de la même manière. Pour les garçons, il y a très nettement l'inscription d'entrée de jeu dans une relation de travail, qu'on évalue comme relation de travail. Bonne ambiance versus mauvaise condition de travail. Autrement dit, chez les garçons, il y a l'évidence du travail qui s'impose.
Excusez-moi, est-ce que c'est la même chose sur le
métier? Oui, j'ai toujours cette question-là. Chez les filles, très nettement, la lecture de la relation d'apprentissage, c'est l'enjeu de la transmission du métier, de l'accès à la qualification. Autrement dit, on a d'un côté, pour les garçons, très nettement, l'évidence. Ils sont garçons, c'est évident qu'ils vont travailler. L'évidence du travail. Et pour les filles, quelque part, la menace de la contingence du travail. Et non, donc l'importance d'avoir une qualification.
Sur le même CAP.
Alors j'ai fait le test en coiffure, où il y a 15-20% de garçons. Il fallait que j'ai quand même suffisamment statistiquement de garçons pour faire mon test. Ça marche pareil. Les garçons, ils vont dire, ils vont parler du salaire, ils vont parler de possibilité de faire des heures sup. C'est un petit peu atténué. Il y a un effet de dominance des filles. Hein, mais ils vont parler de la voiture du salon qu'on peut emprunter. Voilà. Mais beaucoup moins de l'apprentissage du geste et tout ça. Donc c'est bien un effet de genre. Mais votre réaction est tout à fait juste, puisque allez, très vite je me suis dit, ah bah oui, mais faut que je vérifie, faut que je teste, bien évidemment, parce qu'il y a un risque. Donc on voit vraiment, il y a une centration des garçons sur la relation de travail, apprendre un métier évident, avoir un métier tel pour les hommes, il y a une centration sur l'accès au métier pour les filles, le métier est accompli. Ça m'a fait penser à cette formule d'une sociologue qui s'appelle Margaret Marwani dans un livre qui s'appelait « Qui a peur du travail des femmes » où elle parlait effectivement du travail de l'homme comme évident, du travail de la femme comme contagion. Alors, quatrième point, je peux continuer un petit peu, Chanel ? Bon. Les parcours en apprentissage. Alors, quelques éléments de la trajectoire une fois qu'on est apprenti, ça y est, quels sont les éléments qui... premier élément... j'ai déjà dit, mais je le redis, la dotation scolaire initiale du jeune. Alors, dotation, enfin, les petits capitaux scolaires, comme on dit en sociologie, les capitaux scolaires du jeune quand il rentre en apprentissage sont très importants dans la trajectoire apprentie. Plus on rentre en apprentissage avec un bon niveau scolaire, plus on a de chance de réussir au diplôme, et puis on a de chance de poursuivre ensuite en apprentissage. Donc une fois de plus, on peut regarder le tableau, par exemple, où j'ai mesuré. La réussite au CAP en fonction des taux de... Ça, il ne l'avait jamais fait en cours. Hein. le succès au CAP, vous voyez, en fonction des caractéristiques scolaires, hein, avoir redoublé ou pas redoublé, et surtout en fonction du niveau de recrutement. Une fois de plus, ça redit que la pédagogie de l'alternance n'est pas nécessairement une pédagogie alternative, contrairement à ce qu'on dit. Elle ne disqualifie pas, en tout cas totalement, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas utile pour certains jeunes, ce n'est pas ça le problème, mais en tout cas, elle ne disqualifie pas du tout, complètement, les petits, les capitaux, même petits, qu'on s'est constitués avant. Contrairement à ce discours de l'alternance, ça serait contraire de l'école qui elle serait. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui veut dire en même temps qu'orienter plus tôt n'est pas nécessairement orienter mieux. Je m'étais foutu en colère quand il y a eu l'apprentissage à 14 ans, parce que c'était une espèce de, j'avais appelé ça une double peine. Parce que non seulement ils souffraient à l'école, ces gars malins souvent, mais en plus on les envoyait dans un dispositif où ce qu'ils avaient déjà comme pénalité allait encore les sanctionner. Ils allaient moins réussir que les autres. Bon, j'insiste pas là-dessus, j'en ai suffisamment parlé. Les conditions de travail. Alors de quoi, bon, vous avez déjà eu perçu un petit peu des choses tout à l'heure avec les phrases représentatives de quoi se plaignent les apprentis. Alors, un des trucs qui vient souvent, c'est ce que j'appelle l'apprentissage délégué. Si on le met d'apprentissage, il n'est pas là. C'est plus pas de moi. Et j'ai plein d'exemples, c'est l'apprenti plus âgé qui s'occupe de l'apprenti plus âgé. Alors, le télé-restauration est très forte là-dessus. Elle est très très forte. C'est un monde très particulier, et donc ils prennent des apprentis tous les ans, et c'est l'apprenti de deuxième année qui s'occupe de l'apprenti de première année, et ainsi de suite, et ça c'est un truc dont ils se plaignent souvent. Deuxième élément dont ils se plaignent, les horaires. Alors on peut regarder le tableau d'après. Voilà, alors on est d'accord, c'est ce que déclarent les apprentis. Hein. Mais en tous les cas, que ce soit vrai ou faux, peu importe, leur subjectivité, c'est ça. Hein. Donc ils déclarent en moyenne faire 37h50. Je rappelle qu'en 2007, on est sous le régime des 35 heures. Et les apprentis sont soumis à ça. 25% font des heures supplémentaires toutes les semaines, 14% tous les jours, et dans un quart des cas, ils ne sont ni payés ni récupérés. Alors il y a des patrons qui sont réglo, hein, ils récupèrent, vous les payez, et puis il y en a d'autres qui n'existent pas. Hein, c'est chantier à finir, c'est le métier. Alors là, souvent, on oppose au droit la culture du métier. Il y a une espèce de conflit comme ça, hein, entre le droit du travail et puis, ben non, ben nous les maçons, on va pas nous emmerder pour une demi-heure, et hop, on finit. Si, je pourrais donner les chiffres aussi, s'il y en a qui les recopient, hein, je pourrais les transmettre. Alors, bon, néanmoins, dans l'enquête que j'avais faite dans les années 90, la durée moyenne de travail par semaine des apprentis était de 41h40. Donc, s'il n'y reste qu'une raison pour défendre encore les 35 heures, c'est celle-là. Ça a eu quelques effets sur le travail des apprentis. Très nettement, parce qu'entre les deux, il y a... Alors, des choses qui ne se mesurent pas statistiquement, mais qui sont quand même importantes sur les conditions de travail, c'est la mise au travail des apprentis, surtout dans le niveau 5 et niveau 4, c'est un moment très très difficile quand ils commencent. Le passage du statut scolaire au statut d'apprenti, moi, j'ai des témoignages de souffrance, vraiment de souffrance au travail qui sont très très fortes. Les coiffeuses qui rêvent de leur métier de coiffeur. Quand elles découvrent qu'il faut rester toute la journée debout, à piétiner, c'est-à-dire qu'elles me racontent les premiers mois, les mal de jambes, les mal de pieds, les jambes lourdes, chercher les bonnes chaussures, passer son temps à chercher les bonnes chaussures qui vont faire qu'on va tenir. Il y a vraiment, c'est normal, le corps est mis dans une autre situation, et il y a un processus qu'on appelle d'acculturation en sociologie, de reconstruction du corps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance, mais c'est pareil aussi dans la pharmacie. Hein. Moi je m'étais dit, le secteur de la pharmacie, bon quand même, les pharmaciens, naïvement, bêtement d'ailleurs, peut-être par ethnocentrisme, je me dis, pharmacien, allez, j'étais vraiment ethnocentré, j'en fais des études supérieures, peut-être être moins con que les patrons du bâtiment. Ben, pas du tout, c'est les pires. Je peux vous dire que les filles apprenties dans le secteur de la pharmacie, elles se plaignent énormément. Hein. Elles se plaignent énormément, notamment sur le truc de s'asseoir, par exemple. Il y a des règles, même s'il n'y a pas de client, on ne s'assoit pas. On reste debout. Il faut toujours faire des choses et on reste debout. Il est hors de question de se lever quand le client arrive. Ça ne fait pas bien. Ouais. Et elles aussi, à la fin de la journée, elles ont les jambes. Dans le bâtiment, la découverte du bâtiment, dans le TV restauration, la découverte aussi des conditions, des horaires décalés, etc. Alors bien évidemment, cette mise au travail qui n'est pas toujours facile, alors qui se fait parfois de façon conflictuelle, mais pas toujours avec les maîtres d'apprentissage, mais parfois de façon conflictuelle, eh bien ça se traduit comment, ces difficultés, que ce soit sur les conditions de travail, sur la mise au travail, par des taux de rupture qui sont très très importants. Ça c'est une grande caractéristique de l'apprentissage. Le taux de rupture brut est à peu près de 30%. C'est-à-dire 30% des contrats d'apprentissage sont rompus avant la fin. Alors, j'ai bien précisé que c'est le taux de rupture brut, hein, parce que c'est un peu compliqué, les taux de rupture. Alors d'abord, c'est très mal mesuré. Il y a un gros problème de statistiques publiques, parce que de plus en plus, chaque CFA chaque région, quand vous allez sur les sites des régions, vous cherchez les trucs à fond de cas, produisent leurs propres chiffres de rupture. Alors avec des ruses, pour montrer qu'on a des ruptures faibles, hein, avec des ruses qui sont par exemple, dans les deux un tiers des ruptures se font dans les deux premiers mois. Là je fais référence notamment à une enquête du CEREC Lille, qui était approfondie, un peu sérieuse. Donc un tiers des ruptures se font dans les deux premiers mois. Or dans les deux premiers mois d'un contrat d'apprentissage, c'est le droit qui dit ça, c'est un système très particulier que on pourrait appeler de répudiation mutuelle. C'est-à-dire dans les deux premiers mois, du jour au lendemain, l'apprenti peut dire « je me casse, j'arrête » et on ne pourra pas lui faire un procès. Mais aussi du jour au lendemain, le maître d'apprentissage peut dire « dehors, je ne peux plus voir hein ». Et sans que l'apprenti puisse dire il y a eu rupture de contrat. Les deux premiers mois sont spécifiques. Hein, donc c'est là qu'effectivement se passe beaucoup de choses. Et puis le problème des il y a des ruptures aussi qui se font en fin de contrat. Le jeune a eu son diplôme, il a trouvé du boulot, le contrat doit continuer. Il y a des ruptures. Mais par contre, il y a par exemple des régions, elles enlèvent les contrats de rupture pendant les deux premiers mois en disant oui mais ça c'est normal, c'est l'ajustement. Donc bien sûr, ça fait baisser leur taux de rupture. Donc il faut se méfier des affichages sur les taux de rupture. Je me rappelle de Valeo, quand on est CFA pour les rippers et tout ça, pour les apprentis rippers, les poubelles et tout ça, là, agent d'environnement. Valeo, dans une réunion ministère, très fier d'eux, les responsables des CFA, qui disent « nous, on n'a que 2% de rupture de contrat d'apprentissage ». Effectivement, quand on n'y connaît rien, on dit « ils sont forts voilà. ». Sauf que vous savez comment les Valeo recrutent ses apprentis ? Ils ne recrutent que des jeunes qui ont déjà un CAP.
Ouais, bébé.
C'est très demandé, c'est une boîte où il y a des conditions de travail, enfin bon, qui peuvent être discutées, mais qui sont mieux que le petit artisan du coin, donc ils ont beaucoup de candidats. Et donc c'est simple, ils prennent des gens qui ont déjà un CAP. Autrement dit, d'une part, il y a des modules que les jeunes n'auront pas à repasser, puis d'autre part, ils s'assurent que c'est des jeunes qui sont relativement socialisés. Au travail, etc. Donc, de fait, ils ont peu de rupture de contrat parce qu'ils ont un niveau de sélection très fort. Alors, ces ruptures de contrat aussi, ça a un coût pour la société. Hein, ça a un coût parce que ces jeunes-là, après la rupture, ils se retrouvent dans des situations souvent très difficiles. Alors, une partie reprennent un autre contrat d'apprentissage. Donc, je dirais là, après tout, voilà. Mais une autre partie se retrouve et on ne sait plus trop où. Alors, une émission locale en ramasse une partie. Quelques établissements, mais pas toujours. Quelques CFA essaient parfois d'avoir des politiques d'en garder pour essayer d'en retrouver. Mais on a un coût social qui est aussi important. Dernier point, parce que je vais peut-être arrêter après. Hein.
Est-ce qu'on distingue le producteur de la rupture ?
Alors, les enquêtes sont très compliquées là-dessus. Alors, quand vous interrogez les maîtres d'apprentissage, c'est à cause de l'apprenti. Quand vous interrogez les apprentis, c'est à cause du maître d'apprentissage. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a clairement un... Il y a des natures de... Les premières ruptures, c'est vrai que c'est la mise au travail, et c'est vrai, c'est moitié-moitié l'apprenti qui ne tient pas, ou découvre que le métier n'est pas ce qu'il se faisait, hein. Et l'autre moitié, c'est le maître qui se dit qu'il n'est pas content du comportement de l'apprenti. Dans les deux premiers mois, ça se partage. Après, sur les contrats qui ont lieu, les ruptures qui ont lieu après... là, on a des effets qui sont plus complexes. L'avancée dans le métier, par exemple, peut faire qu'on découvre des aspects qu'on n'avait pas pensé, qui fait que le jeune arrête. Les relations peuvent se tendre. Hein, les relations de travail peuvent se tendre entre les maîtres. C'est très difficile à saisir. Et puis, on a toujours des discours très contradictoires entre les deux points de vue. Hein, donc, c'est dur de dire. Alors après, il ne faut pas oublier qu'il y a des ruptures qui sont sur des conditions qui n'ont rien à voir avec la relation maître-apprenti. Une entreprise qui dépose du bilan entraîne une rupture de contrat, automatiquement. Il y a des choses comme ça, c'est pas important statistiquement, mais il y a une partie de ces ruptures, c'est ça aussi. Hein. Donc là, c'est ni le maître ni l'apprenti, c'est d'autres éléments. Par contre, les enquêtes ont montré qu'il y a quand même de façon récurrente des entreprises qui ont l'air d'être spécialisées dans les ruptures. Il y a très nettement des entreprises qu'on peut identifier où il y a de façon récurrente des ruptures et d'autres. Voilà. Et puis il y a des secteurs, l'hôtellerie, restauration. Secteur où il y a le plus de ruptures. Alors, dernier point, sur l'insertion des apprentis, puis je vais arrêter là-dessus. Et je vais vous parler de capital d'autochtonie. J'ai marqué pour éviter de... Alors, vous savez que les discours politiques, et même les enquêtes génération du CEREC, ou les enquêtes du ministère de IPA, du ministère de l'Éducation nationale, dit toutes que l'insertion professionnelle des apprentis serait meilleure que celle des élèves. Alors, c'est globalement vrai. Alors, une fois de plus, si on compare en essayant de tenir compte de l'effet structure dont j'ai parlé, hein, c'est-à-dire que le fait que le lycée professionnel accueille des jeunes que l'apprentissage n'accueille pas. Donc ça veut dire, par exemple, au minimum, zoomer sur des branches professionnelles. Donc c'est globalement vrai, avec un écart qui peut être important à court terme. C'est-à-dire quand on regarde à 7 mois, et notamment dans les enquêtes IVA. Lorsqu'on prend les enquêtes génération du STEREC qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, c'est moins net. C'est-à-dire que les élèves du lycée professionnel rattrapent le taux d'insertion des anciens apprentis. Et quand on prend le critère des salaires, les élèves à 10 ans, les élèves du lycée professionnel s'en sortent mieux que les apprentis. Pourquoi ? Parce que l'insertion des apprentis se fait souvent dans des petites entreprises, où là, les effets de grille de salaire après sont assez limités, alors que les élèves du lycée professionnel vont plus souvent dans des entreprises moyennes ou plus grandes, finissent par intermocher sur des entreprises moyennes ou plus grandes, où là, les grilles salariales et éventuellement les pressions syndicales, d'ailleurs, font qu'on a une évolution salariale qui est un petit peu meilleure. Mais sur l'insertion à court terme, c'est clair que les apprentis s'insèrent mieux en niveau 5 et en niveau 4 en tous les cas. Alors pourquoi ? Et c'est là qu'arrive mon capital d'autochtonie. En fin de compte, il y a une frange importante, ça peut aller jusqu'à 20-25% par exemple des apprentis dans le bâtiment qui sont embauchés directement par leur maître d'apprentissage. Autrement dit, qui se voient proposer une place sans être mis en concurrence avec d'autres demandeurs d'emploi ou d'autres chômeurs pour avoir cette place. Autrement dit, la place leur est proposée sans que le poste soit aille à Pôle emploi, soit mis sur la page B. Autrement dit, ils n'ont pas de concurrence. C'est souvent le maître d'apprentissage qui dit, bah, écoute, si tu veux, je te garde comme ouvrier. Voilà. Et c'est ça que j'appelle le capital d'autochtonie, le fait d'être sur place. Hein. Et c'est ce mécanisme-là, et je vous dis, dans le bâtiment, par exemple, dans les années de 2000 à 2007-2008, où le bâtiment était vraiment en tension, c'était près de 25% des apprentis qui avaient fini leur contrat que le maître voulait garder, que l'entreprise voulait garder. Et encore plus si c'était un brevet professionnel du bâtiment. Hein. Le brevet professionnel niveau 4 était très très recherché. Donc celui qu'on avait formé un, il gardait, il était prêt à mettre un peu plus de salaire pour le garder. Alors, donc ça dépend du niveau de diplôme, ça dépend du secteur, mais il y a des secteurs où c'est très très fort, dans la pharmacie. Aussi. Il est assez fort le capital d'autochtonie, parce que les pharmaciens régulent assez bien le nombre d'apprentis qu'ils forment. Grosso modo, ils forment pour le nombre de places qu'ils vont avoir. Donc très souvent, ils gardent leur apprenti. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence avec l'insertion des autres. Même si les élèves du lycée professionnel ont parfois, mais c'est beaucoup plus rare à l'occasion des stages, ce type de proposition, mais c'est beaucoup plus rare. Hein. Et si on défalque, dans les enquêtes d'insertion, si on défalque le capital d'autochtonie, c'est-à-dire si on sort ceux qui sont embauchés par le maître d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on n'a pas été mis en concurrence avec les autres demandeurs d'emploi, et bien là, les taux d'insertion sont identiques. Hein? Donc c'est vraiment cette particularité qui fait que l'insertion sur les premières années, en tous les cas, des apprentis, est meilleure. Alors, précision, les enquêtes du CEREC, et je vais terminer là-dessus, notamment les travaux de Jean-Jacques Arrigui, du CEREC, montrent que, par contre, pour l'apprentissage du supérieur, le capital d'autochtonie ne fonctionne pas. C'est-à-dire les taux d'insertion des apprentis du supérieur ne sont pas meilleurs que les taux d'insertion de ceux qui sortent de la voie universitaire. Autrement dit, l'argument qui est souvent mis en avant de meilleure insertion des apprentis pour justifier le développement de l'apprentissage supérieur n'est pas du tout légitime. En l'état des statistiques qu'on a, il n'est pas du tout légitime. Voilà, j'arrête là. Je m'excuse d'avoir été bavard, et encore vous avez échappé à la cinquième partie, mais je pense qu'il faut qu'on prenne du temps aussi pour discuter et échanger. Merci de votre écoute.